Aligre FM 93.1, il est 10h, passé de 5 minutes, vous écoutez Recherche en cours. Recherche en cours, l'émission qui raconte et donne la parole à toutes les sciences. Toutes les sciences, David ?
Non, je veux demander finalement... À conférence toutes les sciences. Alors, notre invité, Emmanuel Taïb, est-ce qu'il a quelque chose à dire sur ce toutes les sciences? Ça représente quoi pour vous? Alors, il y a quoi dans toutes les sciences?
Les sciences, bonjour d'abord à tous. Les sciences dures, et puis ce qu'on peut appeler les sciences douces, les sciences humaines, les SHS, les sciences humaines et sociales, les sciences de l'homme et de la société, c'est-à-dire les sciences qui s'intéressent aux individus, qui s'intéressent aux groupes, qui s'intéressent aux institutions, qui s'intéressent à tout ce qui fait notre vie quotidienne.
Moi ça me va. Hein. Anne Zollweg, les sciences douces, c'est quand même beaucoup mieux que les sciences molles, comme parfois on essaie de nous caractériser.
Et les sciences inhumaines, c'est beaucoup moins bien que les sciences dures. Vous retrouvez Recherche en cours les deuxièmes et les quatrièmes vendredis de chaque mois. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'avoir comme invité Emmanuel Taïb. Mais avant ça, nous aurons une chronique...
Oui, donc émission sous le signe de la peine de mort, donc chronique sur l'injection létale, on va s'amuser.
Merci Jean-Marc pour toutes ces blagues. David.
Alors moi, je vais vous présenter en effet Emmanuel Taïb, qui est sociologue, historien et qui travaille en effet sur le rituel de la peine de mort.
Et enfin, pour terminer, je vous présenterai quelque chose de beaucoup plus drôle, les mathématiques, la géométrie symplectique et en l'occurrence sous la forme d'une pièce de théâtre. Jean-Marc, vous nous disiez que vous vouliez parler d'un sujet assez drôle.
Oui, un sujet drôle et d'actualité. Hein. On a remarqué que la peine de mort revient au premier plan en cette période de meurtre d'enfants. Alors, Anne Zollweg, quoi de commun entre l'huile bouillante, les éléphants, la roue et le chlorure de potassium?
J'en ai pas la moindre idée.
Vous n'avez pas la moindre idée. Bon, la question était difficile. Bon, toutes ces choses, en fait, ont été des moyens, des outils utilisés pour exécuter les condamnés à mort. Donc on voit bien que l'extraordinaire ingéniosité d'esprit humain s'exprime aussi dans ce type de domaine. Si on regarde de plus près ces méthodes, on pourrait faire un long inventaire à la Prévert, mais façon un peu macabre, allant des moyens les plus simples, les plus épurés, le bûcher, la potence, aux plus baroques comme l'écrasement par un éléphant, ou l'écartèlement par des chevaux, ou encore se faire dévorer par des papillons furieux. Ah non, les papillons, c'est moi qui l'ai inventé. Hein. C'était pour donner un peu de légèreté à cette chronique. Alors, la plupart de ces méthodes ne sont plus utilisées. Elles sont remplacées par des méthodes dites « modernes », entre guillemets, hein, considérées comme plus humaines, énormes guillemets évidemment, car censées moins faire souffrir les condamnés. Alors, au premier rang de ces méthodes, l'injection létale, utilisée aux États-Unis, dans 37 des 38 États américains qui pratiquent la peine de mort. Alors en quoi ça consiste? C'est une procédure qui ressemble un petit peu à une procédure médicale. On a trois injections à quelques minutes d'intervalle. D'abord un anesthésiant, le thiopental sodique, pour faire perdre connaissance. Puis le bromure de pancuronium, c'est assez joli aussi, hein, destiné à paralyser les muscles et les poumons. Et enfin le chlorure de potassium qui arrête le cœur. Alors, la technique a fait ses preuves depuis 82, date de sa première utilisation au Texas. On en est à peu près à 850 exécutions aux États-Unis quand même. Alors, à tel point que la méthode s'exporte assez bien. La Chine, Taïwan, le Guatemala, les Philippines l'ont également adoptée assez allègrement. Alors, on peut se demander, hein, qu'est-ce qui fait en fait le succès de la méthode? Pourquoi elle s'exporte aussi bien? Une des raisons, c'est sans doute son look, hein, qui évoque un tout petit peu un acte médical et pas une exécution. D'abord, on la doit à un médecin, Stanley Deutsch. Ensuite, elle fait appel à des produits familiers, hein, qui sont couramment utilisés en médecine, comme des anesthésiants. Ensuite, dans le cérémonial lui-même, le condamné est allongé sur un brancard, sa poitrine est recouverte d'un drap blanc. Je suis désolé de rentrer dans ces détails-là, mais bon, c'est de ça qu'il s'agit. Et cette assimilation à un acte médical, même si la finalité n'est pas du tout la même, évidemment... Et savamment entretenu, hein, dans le Missouri, par exemple, les exécutions ont lieu dans une pièce de la prison dite hospitalière, hein, ce qui est quand même assez, hein, assez fort. En 2005, l'injection létale a pris vraiment du plomb dans l'aile avec la publication d'un article dans la prestigieuse revue anglaise The Lancet. Article qui démontre, sur la base d'autopsies sur des exécutés, que, alors accrochez-vous, que 43% d'entre eux avaient des concentrations sanguines de l'agent anesthésien, donc la première substance, hein, compatible avec un état de conscience. Donc, en clair, en fait, ça veut dire que près de la moitié des exécutés seraient restés conscients après la première injection et seraient donc probablement, on ne peut pas le savoir, mais probablement morts dans des souffrances atroces sans pouvoir même lever le petit doigt parce que complètement paralysés par la deuxième injection. Mine de rien, cette petite étude menace l'injection létale d'inconstitutionnalité puisque le 8e amendement aux États-Unis protège les citoyens contre des peines, je cite, dites « inutilement cruelles ». Alors, le débat a été porté devant les tribunaux, notamment par des avocats de condamnés à mort pas encore exécutés. Et en Caroline du Nord, le mois dernier, un juge a conditionné l'exécution d'un condamné à la présence d'un médecin anesthésiste capable de s'assurer que le condamné est bel et bien inconscient avant la deuxième injection. Donc, évidemment, cet arrêté de cour a provoqué un levé de bouclier et un débat extraordinaire. Levé de bouclier notamment des associations de médecins qui mettent en avant le serment d'Hippocrate, leur interdisant de participer à une exécution. Le code éthique médical se prononce clairement en 92 sur la question. Il précise qu'il est inacceptable qu'un médecin participe à une exécution en donnant des conseils techniques, genre aider le choix de la veine dans laquelle poser la perfusion, ou même de suivre l'évolution des signes vitaux pendant une exécution, ou même de constater la mort. Alors, constater la mort. En effet, si vous demandez à un médecin de constater la mort et que le condamné n'est pas complètement mort, il est de son devoir de tenter de le réanimer. Alors, vous imaginez le burlesque de la situation. Il est encore vivant, je peux le récupérer. Bon. Donc, finalement, les deux seuls actes qu'un médecin soit autorisé à faire dans le cadre d'une exécution, c'est de donner un calmant au condamné avant l'exécution, si ce dernier le demande. Et enfin, le deuxième, c'est de certifier la mort après qu'un autre, que lui, non médecin, l'ait déjà constaté. C'est assez subtil. Alors, pourtant, la plupart des États requièrent maintenant la présence de médecins en violation donc des règles éthiques. À titre personnel, les médecins sont face à un dilemme entre serment d'Hippocrate d'un côté et la possibilité qu'ils ont, en participant, de minimiser les souffrances du condamné. Alors, comme à chaque fois que l'horreur est décrétée par un État, on trouve toujours des fonctionnaires de Vichy qui aident à l'organiser en tentant de la minimiser, et donc en toute bonne conscience. Alors, l'enjeu, il est énorme, hein. On l'a compris, la présence d'un médecin est devenue essentielle pour que l'exécution ne tombe pas sous le coup de l'inconstitutionnalité. D'ailleurs, tous les États protègent les médecins volontaires d'une radiation pour manquement aux règles éthiques, en leur assurant l'anonymat, en quelque sorte. Bon, donc, on l'a compris, on a affaire à un combat technico-éthico-juridique qui oppose un État, d'un côté, une communauté, de l'autre, celle des médecins. De l'issue de ce combat dépend le sort de l'injection létale et donc probablement plus généralement de la peine de mort aux États-Unis. Et en fait, il est assez savoureux de voir que c'est finalement une question technico-juridique qui risque d'avoir la peau de la peine de mort aux États-Unis et pas vraiment des considérations de principe. C'est aussi savoureux de voir que l'apparente médicalisation de l'injection létale se retourne finalement contre elle. On peut voir ça comme une sorte de revanche du corps médical.
Merci Jean-Marc pour cette présentation hospitalière de l'injection létale. Thank you. À l'YFM 93.1, vous venez d'entendre Saint-Germain avec le morceau Surfing. Et maintenant, nous recevons Emmanuel Taïeb.
Oui, alors bonjour Emmanuel Taïeb, bienvenue à Radio Ligue Recherche en cours. D'abord, avant de vous présenter, je voudrais peut-être vous demander de réagir à ce qui vient d'être dit dans cette chronique sur l'injection létale aux États-Unis. Ça vous a évoqué aussi vos propres recherches ou...
Oui, d'abord, je souscris à tout ce qui a été dit dans la chronique. Et puis, effectivement, l'idée d'un humanisme un peu paradoxal est toujours à la base de l'adoption d'un nouveau mode d'exécution. Ça veut dire qu'on essaye d'aller de quelque chose qui, à un moment donné, paraît archaïque vers un type d'exécution, un type de mise à mort qui paraît vraiment plus humain. Donc, on peut dire que chaque nouveau mode d'exécution est gros, est porteur d'une idée humaniste. À chaque fois, on essaye d'améliorer le système. L'injection létale paraît aux Américains, qui connaissent aussi la pendaison, la fusillade, la chaise électrique, leur paraît le moyen le plus humain, le moins douloureux d'exécuter. Sauf qu'en réalité, comme ça a été dit, on dispose de quelques études qui montrent que ça fait souffrir le condamné, qu'il est peut-être conscient, en tout cas qu'il sent un certain nombre de choses, que ça se présente comme un acte médical, mais qu'en réalité, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour épargner aux condamnés la douleur et la souffrance, et que finalement, au lieu de l'endormir et de le tuer, c'est théoriquement ce qu'on devrait faire, c'est comme ça que l'injection létale est présentée, eh bien en réalité, on lui envoie un certain nombre de produits et il semblerait qu'il souffre. Il y a surtout des incidents. On en a eu un récemment, enfin la semaine dernière, avec un condamné qui a mis 1h30 à mourir parce que soit l'un des produits ne marchait pas, soit la petite seringue s'était détachée de la veine. Donc à ce moment-là, évidemment, alors que c'est des gens qui ont attendu pendant très longtemps dans le couloir de la mort, leur exécution se passe mal. Donc il y aurait effectivement, pour les abolitionnistes américains, quelque chose à jouer sur le fait que c'est un châtiment cruel, inhabituel, qui rentrerait dans le cadre du 8e amendement de la Constitution et qui ferait qu'effectivement, on pourrait à ce moment-là faire un moratoire ou abolir la peine de mort sur ce fondement-là.
D'accord. Donc on va revenir un petit peu justement sur cette dynamique qui fait que certaines mises à mort sont acceptables ou non, hein, suivant les sociétés et les contextes, puisque justement, c'est vos sujets de prédilection. Alors, je rappelle qu'Emmanuel Taïeb est en train de terminer un doctorat à l'Université Paris 1, donc à Sorbonne. Pour ce qui est de la discipline, justement, on y reviendra, puisque vous êtes peut-être entre la science politique, l'histoire, la sociologie, peut-être même une certaine forme d'anthropologie, on verra. Moi, j'aime beaucoup, justement, ce jeu sur les frontières, donc on y reviendra. Vous êtes en train de boucler votre thèse, donc vous avez longtemps travaillé sur des archives, on va voir, dans différents lieux en France. Et vous travaillez aujourd'hui sur ce qu'on peut appeler la dépublicisation des exécutions. Donc ce n'est pas seulement sur la mise à mort, hein, c'est sur l'idée que la mise à mort est avant tout un rituel où s'exprime le droit donné par l'État au pouvoir pénal de donner la mort. Et donc vous travaillez surtout finalement sur ce rituel qui est la mise à mort, le moment même de la mise à mort. Alors d'abord, je crois que dans votre travail, tout simplement, vous présentez pas mal de faits qui sont, je crois, assez étonnants. En tout cas, j'étais étonné de cette histoire de la peine de mort qu'on connaît très peu. Alors peut-être que vous pourriez commencer par quelques éléments historiques.
Alors j'avais décidé de travailler sur la peine de mort, mais non pas la peine de mort en elle-même, mais ses aspects publics, ses aspects urbains, c'est-à-dire le fait qu'elle se déroule dans la rue et qu'en France, on exécute dans la rue. Donc j'ai choisi de travailler dans un moment, sur une période historique qui est un grand moment d'effervescence intellectuelle et de débat autour de cette question, qui est la période de la Troisième République française, hein, 1870-1939, où on va avoir effectivement beaucoup d'exécutions, hein, environ 560 exécutions, qui se déroulent dans la rue. Alors ce qui est extrêmement étonnant, c'est que notre génération, nos contemporains, ont complètement oublié que les exécutions se déroulaient dans la rue. Et ça nous paraît complètement aberrant.
C'est vrai qu'on a l'impression presque d'ancien régime.
Hein. Oui, on a l'impression que c'est le supplice médiéval, que décrit Foucault et que sur lesquels on a beaucoup d'informations. Ce qui montre d'ailleurs que nos sensibilités ont beaucoup évolué, puisque ce qui était évident pour nos grands-parents devient complètement aberrant pour nous. Et on avait non seulement des exécutions dans la rue, mais beaucoup de gens qui allaient les voir. C'est-à-dire que sur toute la France, une exécution avec un condamné pas très très connu, c'est entre quelques centaines et quelques milliers de spectateurs. On a des records. On a une exécution à Marseille en 1868 avec 50 000 personnes. ce qui est considérable. Ça veut dire que ça occupe toutes les rues aux alentours. C'est aujourd'hui, quand on fait une manifestation qui a 50 000 personnes, c'est considéré comme un succès.
Bon. Johnny au Parc des Princes. Hein.
Voilà, donc c'est quand même des moitiés de stades où effectivement le Parc des Princes. Donc c'est quand même considérable, ce qui montre que c'était un spectacle extrêmement prisé et un spectacle qu'on voulait aller voir et dans lequel on emmenait sa femme, ses enfants pour les éduquer, pour les édifier, ce qui était d'ailleurs l'objectif avoué du pouvoir quand il met dans l'espace urbain une exécution, édifier les citoyens en leur montrant ce qui arrive aux criminels, en leur montrant que la justice agit et que le souverain possède un droit de glaive qui lui permet d'exécuter dans la rue, dissuader le crime et montrer la puissance souveraine.
Donc c'est très intéressant ces éléments de pourquoi est-ce qu'on peut à un moment ou pas accepter collectivement en France ce rituel public de la mise à mort. Mais revenez peut-être d'abord sur quelques dates de chronologie, parce que finalement justement, quand est-ce que ça s'est arrêté, à quel moment, revenez un petit peu sur cette...
Alors ça s'est arrêté en 1939 par un décret-loi qui était un décret de l'exécutif, du pouvoir exécutif du 24 juin 1939 qui interdit, qui supprime la publicité des exécutions capitales. Et 39, c'est aussi évidemment le moment où on va changer de régime. Le décret-loi se produit juste avant. Donc c'est vraiment un moment charnière. Pourquoi moi j'ai commencé en 1870, donc voilà, je vais essayer d'expliquer mon bornage chronologique du 1870-1939. 1870, il se passe trois événements. D'abord, c'est aussi un changement de régime. On passe du Second Empire à la Troisième République. Ensuite, c'est un moment où on va commencer à déritualiser, en tout cas, on va intervenir sur le rituel de l'exécution en supprimant l'échafaud. Alors, c'est-à-dire que la guillotine était montée sur un échafaud qui était situé à 2-3 mètres au-dessus du sol, par lequel le condamné accédait via une série de petites marches, ce qui permettait de surélever la guillotine, de la montrer, et on la voyait de très très loin, puisqu'elle était sur une forme d'estrade. Donc là, il y a une première intervention du pouvoir en 1870, qui consiste à supprimer cet échafaud et à mettre la guillotine au ras du sol, ce qui va faire qu'elle va être beaucoup plus difficile à regarder. Et puis, dernier élément qui se produit en 1870 et qui m'intéresse aussi, on va décréter qu'il n'y aura plus qu'un seul bourreau, un seul exécuteur sur l'ensemble du territoire national. Avant, il y avait à peu près un exécuteur, un bourreau par département, donc il fallait les payer, et puis à chaque fois qu'il y avait une exécution, il y avait 2-3 bourreaux des départements alentours qui venaient. Tout ça était très compliqué. On a décidé, et de mon point de vue, c'est aussi une forme de recul de la peine de mort, de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul exécuteur sur tout le territoire, métropolitain plus la Corse. Et dès de 5 adjoints, on réduit aussi le nombre de guillotines, parce qu'il y en avait un peu partout, il n'y en a plus que deux, qui vont se déplacer. Donc désormais, il n'y a plus qu'un seul exécuteur. Voilà un peu ce qui justifie le bornage chronologique, sachant qu'entre les deux, c'est un moment de débat très important.
Peut-être que vous pourriez revenir sur deux dates. Je crois qu'à la fois le moment de la Révolution est important, hein, comme rupture historique, puis 1981 quand même, qui sont à deux siècles de différence, deux dates importantes.
La Révolution est très importante. La Révolution française de 1789 est très importante pour plusieurs raisons. C'est un moment où on abolit les supplices médiévaux, donc on arrête tout ce qui est écartèlement, la roue, etc. On brûlait les corps, tout ça a été extrêmement compliqué. La Révolution abolit aussi quelque chose qu'on connaît moins, qui était le fait que les individus étaient exécutés différemment selon l'ordre auquel ils appartenaient. C'est-à-dire qu'on avait trois ordres, hein, le tiers-état, la noblesse et le clergé, et chacun bénéficiait d'un mode d'exécution différent. Les nobles étaient décapités à l'épée, ce qui était une forme de mort très honorable qui rappelait un peu leur passé militaire, et donc c'était bien de mourir sous le glaive. Le clergé, on ne pouvait pas verser le sang des ecclésiastiques, parce que c'était sacrilège, donc on les pendait. Quant au tiers-état, ils bénéficiaient de choses absolument affreuses. Donc la Révolution, ayant aboli les ordres, abolit aussi les modes d'exécution différents. Tout le monde est exécuté de la même façon, ce qui d'une certaine manière valorise l'idée d'égalité que la Révolution voulait promouvoir. On est égaux dans la mort, on est égaux dans le mode d'exécution. Et puis, dernier élément qui me paraît le plus important, la Révolution invente ou réinvente, parce que le système était ancien, la guillotine. C'est-à-dire que pour égaliser le mode d'exécution, il va falloir trouver un nouveau système, là aussi présenté comme le plus humain. Hein, le docteur Guillotin, qui présente ça devant la Constituante, dit le condamné va sentir juste un petit souffle sur le cou. Pour dire que vraiment, par rapport à la douleur qu'on pouvait ressentir dans les supplices médiévaux, la guillotine est vraiment un progrès technique et un progrès dans l'humanité. Et l'invention de la guillotine est extrêmement importante, car de 1789 à 1981, donc pratiquement 200 ans, c'est le seul mode d'exécution en France, et on va rester sur cette exécution, sur ce mode d'exécution, pendant 200 ans. En 1939, on supprime la publicité, on fait des exécutions, on fait rentrer la guillotine dans la cour d'enceinte des prisons, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que ça ne se déroule plus dans la rue, mais on n'abolit pas la peine de mort en 1939. C'est-à-dire qu'on la masque au regard, on la cache. Et ça va rester comme ça, dans la cour d'enceinte des prisons, jusqu'en 1981, date de l'abolition.
D'accord. Si vous citez dans vos articles, par exemple, le rythme de cette fin de la mise à mort publique dans d'autres pays. Et c'est vrai que la France n'est pas trop en première ligne de ce côté-là, puisque vous montrez que... par exemple, en Allemagne, c'est en 51-63, 68 en 1868, excusez-moi, en Angleterre, 1873 en Autriche, 1900 en Espagne, et finalement 1939 en France. Donc, on a l'impression que cette fin de la publicité est plutôt tardive en France. Mais est-ce que vous pourriez revenir ? Je sais que certains auteurs ont essayé de travailler sur la fin de la publicité de l'exécution en parlant de privatisation. Alors, je ne sais pas si vous êtes trop d'accord avec cette idée qu'on privatise la mort lorsqu'on va la mettre dans l'enceinte de la prison et qu'on la supprime au regard des foules.
Alors deux choses. La première, c'est qu'effectivement la France est toujours un peu en retard à la fois pour abolir la publicité et pour abolir la peine de mort, parce qu'en 1939, on est vraiment le dernier pays à supprimer la publicité. En 1981, on est le dernier pays européen à avoir supprimé la peine de mort. Je crois que l'Angleterre l'avait fait en 1964. Donc on est toujours un peu en retard et on a un débat qui est un peu décalé dans le temps. Alors, privatisation de l'exécution, moi, j'aime pas trop le terme, même s'il est employé par un certain nombre d'auteurs pour désigner ce moment où l'exécution rentre en prison. La prison n'est pas un espace privé. Voilà. Il n'y a pas une appropriation privée de l'exécution. En tout cas, en France, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'exécution pour des individus privés. La justice et l'exécution continuent d'être faites au nom de la collectivité et par une justice impersonnelle, aveugle, générale. Alors peut-être que le mot privatisation marcherait un peu mieux pour les États-Unis, où ils commencent à y... enfin, où depuis quelques années maintenant, on admet... que la famille des victimes puisse regarder l'exécution. Or, la famille des victimes, ou de la victime, ce sont des personnes privées. Donc peut-être que là, il y a effectivement une forme d'appropriation privée par la famille des victimes de l'exécution, puisqu'on les autorise à aller voir, alors qu'on n'ouvre pas l'exécution aux États-Unis à l'ensemble des citoyens. Donc là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la privatisation. Moi, je préfère parler de dépublicisation ou de déritualisation ou de, finalement, de mise en invisibilité, d'entrée dans le secret de l'exécution de la peine de mort.
D'accord. Donc, je pense qu'on va revenir sur ce terme de rituel, de déritualisation, hein, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où c'est toujours dans l'enceinte, disons, d'une institution publique que cette mise à mort est opérée, on a du mal, en effet, à parler de privatisation, puisque c'est quand même dans une prison au nom de l'intérêt public et de l'État. Alors, excusez-moi de changer un petit peu de source, mais dans un film qui, je pense, beaucoup d'auditeurs ont vu, c'était ce film avec Björk qui s'appelait Dancing in the Dark. Ça se termine justement de manière extrêmement impressionnante par une mise à mort. Moi, j'ai été très, très touché par ce film, mais j'ai senti tout à l'heure en l'évoquant que vous n'étiez peut-être pas tout à fait d'accord pour partager cet enthousiasme. Alors, pourquoi, par rapport à vos thèmes, ce film ne vous a pas autant plu ?
Alors, c'est Dancer in the Dark. Je vais être un peu anti-consensuel sur ce film. J'aime bien la bande originale de Björk, hein, j'ai l'album, enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Pourquoi ça me pose problème ? D'abord pour des raisons cinématographiques de base, qui est que Lars von Trier est assez cruel avec ses personnages et qu'il les met vraiment dans des situations épouvantables qui sont un tout petit peu irréalistes. Et puis, et ça va dans le même sens, la scène d'exécution à la fin pose beaucoup de problèmes. D'une part, elle est un peu irréaliste. Il y a une espèce d'agitation monstrueuse autour de cette pendaison. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Peu importe, le film n'avait pas non plus un parti pris extrêmement réaliste. Et puis surtout... dans le fait que le filmage soit frontal, eh bien, il nous oblige à regarder une exécution, à la soutenir de bout en bout. A-t-on vraiment envie de soutenir une exécution ? Voilà. Ce qui est un peu tout le problème qui m'anime et qui a animé tous les gens du 19e siècle et du début du 20e siècle. Est-ce qu'à un moment donné, soutenir une exécution, ce n'est pas une violence qui nous est faite ? Est-ce que ce n'est pas une violence au regard ? Et est-ce que, finalement, nos sensibilités sont devenues... font que c'est désormais insoutenable de regarder une exécution. Alors, il y a probablement là une sorte de perversité de Lars von Trier qui fait exprès de nous donner à voir une exécution. le sens de ce regard frontal, je reste un peu perplexe dessus.
Alors peut-être justement pour créer une communauté virtuelle, puisque vous montrez bien que dans le regard, avant tout, le regard de ceux qui sont exposés à une peine de mort publique n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. On a l'impression qu'aux États-Unis, vous montrez dans vos articles que peut-être une forme de communauté se crée dans les gens, donc la famille, les proches qui sont autorisés à avoir une exécution publique. Donc on voit bien que le fait d'observer ensemble une mise à mort n'est pas du tout neutre.
Alors aux États-Unis, il y a effectivement des micro-communautés de victimes qui se forment. Il y a des gens qui s'appellent les survivors et qui se pensent comme des gens qui ont survécu, qui tiennent le coup après la mort de leurs proches et qui effectivement revendiquent cette communauté de destin ou cette nature commune pour regarder une exécution. En France, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'au temps où les exécutions étaient publiques, le fait que la fréquentation soit massive et que les gens ne soient pas nécessairement concernés par le crime parce qu'il a pu ne pas se produire là et que finalement, la personne qui est exécutée, ils ne la connaissent pas, eh bien là, on va commencer à avoir des problèmes pour dire est-ce que ce groupe est homogène ? Voilà, est-ce que ce groupe qui regarde l'exécution est homogène ? Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles les exécutions sont déritualisées, c'est que ce groupe est un groupe de rencontres. C'est un groupe de spectateurs pris au hasard, complètement hétérogène, avec des classes sociales qui se mélangent, et que finalement, contrairement au public d'autres cérémonies, hein, comme les voyages présidentiels, les funérailles d'hommes politiques, où là, tout le monde est venu volontairement, là aussi, hein, dans une exécution, ils viennent volontairement, mais avec une espèce d'idée très importante de la nation, de la République, etc. Là, on l'a un tout petit peu moins. On a des gens qui viennent pour des raisons complètement différentes. On ne sait pas toujours très bien pourquoi ils viennent. La plupart d'entre eux vont rien voir, de toute façon. Et je pense que dans le fait que ce groupe soit très hétérogène, que ces classes sociales s'affrontent, se critiquent mutuellement, en particulier les élites qui critiquent beaucoup les classes populaires qui viennent assister à ce spectacle et qui ont l'air de s'en réjouir, je pense qu'il y a là quelque chose qui se joue qui fait qu'on ne veut plus voir advenir ce type de groupe. Voilà. À un moment donné, la dénonciation des scandales populaires, la dénonciation du fait qu'on amène les enfants, on a l'impression que le sens de l'exécution s'est perdu et que finalement, ce groupe n'arrive jamais à devenir un public. Voilà. Ça reste une foule. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, les foules sont considérées comme dangereuses, qu'elles sont considérées comme inquiétantes, qu'elles sont considérées comme criminelles, et qu'à ce moment-là, on ne veut plus voir advenir des foules. On préférait qu'il y ait un public.
On continuera cet entretien avec Emmanuel Taïeb après une petite pause musicale.
Thank you.
FM 93.1, vous êtes toujours à l'écoute de Recherche en cours, l'émission qui raconte et donne la parole à toutes les sciences.
Alors aujourd'hui, on a un invité historien, disons, ou peut-être sociologue, on va voir ça. En tout cas, je voulais que vous reveniez justement sur, d'abord, pourquoi est-ce que vous appelez ça un rituel politique ? Qu'est-ce que c'est qu'un rituel politique, comme celui qui est d'exécuter les gens en public ?
Le pouvoir se montre, et le pouvoir se montre via des formes qui sont codifiées, qui sont très importantes, qui sont des cérémonies. On en a plein en tête, hein. J'ai parlé tout à l'heure des funérailles et des voyages présidentiels, tout ça est codifié, organisé, structuré. On peut aussi penser, on va en avoir bientôt, aux passations de pouvoir à l'intérieur des ministères ou à l'intérieur de la présidence, où on se reçoit sur le perron de tel ou tel ministère, on se serre la main pour montrer une passation de pouvoir. Toutes ces formes sont extrêmement importantes parce qu'elles font fonctionner le régime, elles montrent qu'il n'y a pas de vacance du pouvoir, et elles le stabilisent finalement. Donc à partir du moment où il y a une cérémonie, des formes, et que c'est politique ou politico-judiciaire, on peut parler d'un rituel. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était précisément de poser l'exécution, non pas simplement en disant « Ah, c'est la peine de mort », non, mais de dire « C'est une forme de rituel politique qu'on n'a pas beaucoup étudié et qui est évidemment extrêmement codifié. » C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre à mort un individu de manière anarchique, sinon ce serait une exécution sommaire. Donc il y a évidemment tout un procès qui est fait dans les formes. L'exécution vient clore toute une procédure judiciaire, donc c'est à la fois légal et légitime, la peine de mort à ce moment-là est légale et légitime, et puis dans le moment même de l'exécution, il y a un certain nombre de formes à respecter, hein. Remettre le condamné au bourreau, il y a une levée d'écrou, on remet le condamné à mort au bourreau qui va s'en occuper, il y a un aumônier qui a un rôle extrêmement précis, il y a une petite procession avec toujours les mêmes individus, là aussi l'aumônier, le directeur de la prison, un certain nombre d'officiels qui vont marcher vers l'échafaud, il y a un cordon policier et une mise en ordre de la foule autour de l'échafaud qui est toujours la même. Dans le cas où le condamné est un parricide, c'est-à-dire quelqu'un qui a tué ses parents ou ses ascendants, il y a la lecture de l'arrêt par un huissier au moment où l'exécuté ou le condamné est amené.
Avant la Révolution, on coupait une main.
Absolument, jusqu'en 1832, on coupait le poing du parricide. Donc il y a un certain nombre de formes extrêmement importantes qu'il faut absolument respecter, et la présence de la foule même fait partie de ces conditions de forme, car la foule vient attester que c'est le bon condamné qui est exécuté, vient attester de son identité. Voilà pourquoi on peut parler d'un rituel politique.
Alors la foule finalement est passive à ce moment-là, elle est là juste pour montrer que c'est un événement important. Qu'est-ce qui se passe dans ce rituel ? Le rituel, c'est les gens justement qui sont autour du condamné à mort, ou qui fait partie du rituel ?
Tout le monde. Voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui font partie du rituel. Il y a à la fois les acteurs officiels, on va dire les acteurs d'en haut, qui sont ceux qui vont s'occuper de l'exécution et qui vont l'encadrer. Et puis il y a les acteurs d'en bas, c'est-à-dire à la fois les policiers qui sont vraiment au plus près, qui sont avec la foule, et puis il y a la foule. Et puis il y a le condamné à mort. Voilà, tous ces gens-là sont les acteurs du rituel. S'il manque une partie de ces acteurs, eh bien on est dans des formes de déritualisation ou de modification du rituel. Alors selon les auteurs qui ont travaillé là-dessus, ils sont plus ou moins pas intéressés à la foule ou plus ou moins intéressés aux condamnés. Par exemple, Foucault s'est beaucoup intéressé aux condamnés, au corps du condamné à mort. Mais on peut aussi décaler très légèrement le regard et dire non, mais qu'est-ce qui se passe avec cette foule ? Quelle est cette foule ? Comment est-elle constituée ? Que fait-elle ? Est-ce qu'elle crie ? Est-ce qu'elle a des mots d'ordre ? Qui l'a amenée ? On peut aussi s'intéresser à la police, ça a été fait. Et qui sont ces gens-là, combien on en amène pour une exécution, à quelle heure ils arrivent. Tous ces gens-là sont des acteurs du rituel et des acteurs indispensables à un moment. Et puis après, ils sont jugés moins indispensables.
Il y a deux éléments qui sont intéressants dans vos travaux. D'une part, c'est de dire que vous ne voulez pas raconter une espèce d'histoire évidente, comme si le sens de l'histoire, c'était justement d'arriver progressivement vers la suppression de la peine de mort comme quelque chose de naturel dans nos sociétés, mais que vous vous intéressez vraiment à ce qui se joue entre une population et le pouvoir, finalement, qui a le pouvoir de donner à mort. Et puis, je pense que vous essayez d'élaborer des hypothèses sur pourquoi est-ce que finalement on a décidé de ne plus avoir de public pour les mises à mort. Et apparemment, vous présentez un petit peu deux hypothèses. Une qui serait celle d'un historien qui s'appelle Norbert Elias, sociologue, qui dit que finalement les sensibilités évoluent peu à peu. Et une autre explication, qui serait peut-être celle de Michel Foucault, qui dit au contraire que c'est tout simplement les techniques du pouvoir qui évoluent et qui ont fait qu'on n'a plus besoin de cette mise en scène.
Alors, deux éléments dans ce que vous avez dit. Premier élément, effectivement, moi, je n'ai pas voulu faire une histoire de l'abolition de la peine de mort, parce que d'abord, ça a été beaucoup fait, et qu'ensuite, ça nous donne une vision historique un peu tronquée. On a l'impression que tout le XXe siècle était en attente de l'abolition de la peine de mort. Or, ce n'est pas du tout le cas. L'abolition en 81 se fait de manière extrêmement conjoncturelle. Donc, je me suis dit qu'il fallait un tout petit peu décaler le regard et s'intéresser plutôt à la question de la publicité. Alors, effectivement, moi, ce qui m'a intéressé, et c'est le deuxième élément, c'est à quel moment la publicité des exécutions ou le rituel de l'exécution devient insupportable. Et l'hypothèse que moi je fais à partir effectivement de Norbert Elias que vous avez cité, qui est un sociologue des sensibilités qui travaille sur le très très long terme, qui a travaillé sur l'évolution des sensibilités depuis 500 ans, c'est de dire, eh bien, ce qui a contribué à la mise au secret des exécutions, c'est que les sensibilités des individus ont extrêmement évolué et que ça s'est un peu précipité au 19e et 20e siècle. Alors, les sensibilités, qu'est-ce que c'est exactement? C'est à la fois ce qu'on ressent et ce qu'on exprime, c'est-à-dire le rapport qu'on a au monde, le rapport qu'on a à la violence. Et il va y avoir ce qu'on appelle un abaissement du seuil de sensibilité à la violence, c'est-à-dire qu'on va devenir de plus en plus sensible au spectacle de la violence, c'est-à-dire en fait de plus en plus choqué par ce spectacle de la violence. On ne veut plus, et c'est très visible quand on travaille sur les sources à la fin du 19e, on ne veut plus voir le sang couler dans l'espace urbain.
Heureusement, depuis, on s'est quand même rattrapé à la télévision et dans les...
Alors effectivement, c'est une hypothèse intéressante, c'est-à-dire on l'a enlevé de l'espace urbain et on le montre à la télévision. Effectivement, la télévision est devenue une grande arène où on peut effectivement tous les jours regarder des exécutions. On en voit d'ailleurs, la télé nous passe assez régulièrement des mises à mort. Il y en a encore une qui est passée il y a 3 jours sur des exécutions collectives en Chine. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'espace urbain, on a décidé de les supprimer. Et ça fait partie de tout un mouvement où les sensibilités ont vraiment mis au secret tout ce qui faisait violence. On a supprimé les abattoirs, on a supprimé, il y avait des autopsies. Si en public pendant très longtemps on les a supprimés, on a enlevé tout ce qui pouvait vraiment à un moment donné choquer parce qu'on voulait une ville qui soit hygiénisée, qui soit aseptisée, qui soit une ville de l'industrie, une ville du commerce, une ville des loisirs, une ville de l'habitat et non pas une ville où une mise à mort va se produire.
Donc moi mon hypothèse c'est ça. De peur de la propagation du sang, de la violence de manière épidémique presque.
Oui et d'ailleurs on a peur de la contagion à l'époque, on a peur de ce qu'on appelait l'aérisme, c'est-à-dire le fait que ceux qui sont en sciences dures connaissent ça, c'est-à-dire le fait que des miasmes pourraient se propager, que les cadavres ou que le sang provoquent des maladies. Or, on est dans une période d'osmanisation où on relègue un peu tout ce qui paraît insalubre à la périphérie de la ville et où, effectivement, la peine de mort apparaît comme une violence aberrante au sein de l'espace public. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'évolution de ces sensibilités. Effectivement, il y a une autre hypothèse que moi, je ne retiens pas, même si j'essaye un peu de marier les deux, qui est l'hypothèse de Michel Foucault, notamment dans « Surveiller et punir », et qui pose que, eh bien, c'est... Il faut penser tout ça en termes de changement technique, en termes d'évolution du pouvoir qui veut à un moment donné se débarrasser de l'exécution ou en tout cas la mettre au rebut dans la cour d'enceinte des prisons parce que la concurrence de la prison fait qu'à un moment donné, cette technologie de pouvoir devient moins intéressante pour lui, devient moins indispensable à montrer. C'est une hypothèse intéressante, mais...
On pourrait dire que justement, l'État est assez puissant à ce moment-là pour ne plus avoir besoin d'impressionner le peuple sur son propre pouvoir en faisant des exécutions publiques.
Absolument. L'État est stabilisé. Le régime de la Troisième République est relativement fort dès qu'il s'installe. La prison commence à coloniser l'ensemble du droit pénal et la peine de mort apparaît comme une technologie de pouvoir un tout petit peu archaïque, un tout petit peu ancienne, moins utile. On a plus besoin d'exécuter les condamnés, on n'a plus besoin de les exécuter en public. La dangerosité d'un criminel, elle sera affaiblie quand il sera mis en prison. Donc on est plutôt dans une volonté de la Troisième République de garder les corps vivants et de les enfermer. Et on vit toujours sur cette dynamique aujourd'hui.
Alors, on voit que vous avez une veine, disons, d'anthropologue à travers cette étude des rituels, cette étude du regard que vous mettez bien en valeur dans vos publications. Qu'est-ce que c'est que regarder Mais vous avez aussi une veine peut-être encore plus importante d'historien. Et alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, puisqu'on est dans une émission Recherche en cours qui essaie de montrer comment on travaille, qu'est-ce que c'est qu'être chercheur. Finalement, comment vous avez travaillé concrètement? Vous avez fait apparemment plutôt un travail d'historien sur des archives.
Alors moi, j'ai essayé de marier plusieurs disciplines, parce qu'on parle beaucoup d'interdisciplinarité, c'est très à la mode, mais en réalité, dans les travaux, on ne la voit pas beaucoup. Moi, j'ai essayé vraiment de la faire, c'est-à-dire à la fois de travailler en sciences politiques, qui est ma discipline d'origine, de travailler comme sociologue, de travailler comme historien, comme anthropologue, comme ethnologue, et d'essayer de marier tout ça. Alors j'ai découvert, moi, je n'étais pas historien de formation, le travail sur archives. C'est-à-dire que, évidemment, quand on travaille sur une période passée, même quand on veut avoir dessus un regard de sociologue, ben, il faut aller travailler sur des archives qui sont évidemment toutes dispersées sur l'ensemble de la France. Et moi, j'ai donc fait un mini tour de France, mais j'ai surtout travaillé sur une archive, des cartons d'archives. Hein. Les archives se présentent sous la forme de liasses dans des cartons. Tout ça est bien référencé et catalogué, qui sont les dossiers de recours en grâce des condamnés à mort. C'est-à-dire tout le dossier de la fin de la procédure. Ce n'est pas le dossier du procès, c'est le dossier de la fin de la procédure, au moment où le condamné est condamné, et il va essayer de plaider sa grâce présidentielle, soit auprès de l'empereur avant du 170, soit auprès du président de la République. Alors c'est des archives intéressantes, c'est des belles archives pour l'historien. Pourquoi ce sont des belles archives? D'abord parce que c'est un moment où la parole du condamné n'est pas complètement dominée, alors que dans la procédure judiciaire, on voit qu'il est écrasé, il ne parle pas avec ses termes, c'est son avocat qui s'exprime. Là, moi, j'ai trouvé dans ces dossiers de recours en grâce des lettres même des condamnés à mort, avec leurs mots, avec leurs fautes d'orthographe quand ils n'étaient pas très forts, qui viennent plaider leur vie. Donc c'est des archives extrêmement émouvantes. Et puis il y a évidemment les propos du procureur, il y a la grâce ou pas, c'est-à-dire qu'il y a la feuille où le président signe la grâce ou ne la signe pas, qui détermine la vie d'un individu. Ce sont les archives d'un dénouement, voilà, les archives d'une fin de procédure. Et moi, ce qui m'a intéressé évidemment aussi dans ces archives, c'est qu'on a des descriptions d'exécution, des procès-verbaux d'exécution, des gens qui y ont assisté. Alors voilà, ils nous décrivent comment ça se passe, à quelle heure ça s'est produit. Est-ce qu'il y a eu des incidents? Est-ce qu'il y a eu des bousculades? Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont fait tuer dans les bousculades? Ça arrive. Est-ce que le condamné s'est bien comporté? Voilà. Et donc, toutes ces archives-là décrivent le moment qui, moi, m'intéresse, qui est le dernier moment, l'ultime moment où la peine de mort va se produire. Et en mettant en relation l'ensemble de ces dossiers de recours en grâce, alors j'en ai pas consulté 560 parce que j'ai pas eu accès à tout, parce qu'un certain nombre d'archives étaient dans des bâtiments où il y a de l'amiante, donc j'ai pas pu y rentrer. J'en ai consulté quand même plusieurs centaines. Et bien, quand on les relit tous ensemble sur l'ensemble de la France, on commence à avoir une idée de qu'est-ce que c'était que toutes ces exécutions et quel problème ça pouvait poser le fait que ça se déroule en public.
En fait, en ajoutant ces lectures les unes aux autres, c'est comme si vous vous plongiez dans les mentalités de cette époque, peut-être que vous n'aimez pas le terme, mais en tout cas l'état d'esprit dans lequel les gens voyaient, écrivaient, pensaient ce qui se passait. Mais alors après, comment vous l'utilisez? Parce que donc, vous lisez, vous faites des cartons immenses, vous prenez des notes, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que ça ressort à un moment, vous?
Alors, moi, je fais un travail qui est complètement artificiel, c'est que moi, en tant qu'historien, j'ai assisté à l'ensemble des exécutions, alors qu'en réalité, personne n'a assisté à l'ensemble des exécutions de la Troisième République. Moi, ce que je fais, c'est que je vois qui a produit l'archive. J'essaie de comprendre les conditions de production. Est-ce que c'est une archive policière? Est-ce que c'est une archive judiciaire? Est-ce que c'est la parole du pouvoir? Ou est-ce que c'est la parole du condamné? Donc, j'essaie de faire comme ça une critique. Et ensuite, bien, effectivement, moi, le terme mentalité ne me dérange pas tellement. L'histoire des mentalités est très importante en France avec les annales. Et on a été pionniers depuis le 19e siècle là-dessus. Oui, j'essaie de comprendre les mentalités, les sensibilités, les émotions. Qu'est-ce qui est exprimé? Qui les exprime? Évidemment, ce sont les classes bourgeoises, les classes alphabétisées, qui sont les seules à laisser des traces. Et au final, quand on relit l'ensemble de ces sources, plus les journaux évidemment, plus les romans, plus l'ensemble des sources auxquelles on peut avoir accès, eh bien, on commence à avoir une idée des mentalités, en tout cas des sensibilités qui sont exprimées et de ce qui pose problème.
Emmanuel Taïeb, merci beaucoup. On va terminer sur ce lien entre les vieilles archives et puis cet intérêt pour l'évolution des sensibilités, pour le monde sensible, une histoire des mondes sensibles. Merci beaucoup. Une petite pause musicale.
À l'YFM 93.1, vous écoutiez Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up. Et pour terminer un peu rapidement, puisque la fin de l'émission approche, je vais vous parler d'une pièce de théâtre qui se joue en ce moment au théâtre de Chaillot, qui s'appelle Le cas de Sofika et qui a lieu jusqu'au 27 mai. Alors, Sofika, on en a déjà parlé, c'était il y a 2 mois, et on parlait ce jour-là de satellites, de toupies et de géométrie symplectique. Et j'espère que vous en rappelez parce que c'était quand même très intéressant.
Moi, je me rappelle très bien notre invité qui nous a parlé de satellite.
Et bien, figurez-vous que notre invité, qui s'appelle Michèle Audin et qui est directrice de labo à Strasbourg, a participé à l'élaboration de cette pièce, parce que cette pièce est un vrai échange entre les sciences et autre chose, et en l'occurrence, les sciences et l'art. Et il y a un gros travail qui est fait pour réussir à brosser le portrait d'une femme, Sophie Kovalevskaya, qui est née en 1850, qui a été la première femme à avoir une chaire. En l'occurrence à Stockholm. Il faut savoir qu'en France, il a fallu attendre 1938 pour que ça se produise. Et elle l'a eu dans une des matières qui est réputée être difficile et totalement inhumaine, pourtant une science dure, les mathématiques. Et pendant 1h30 au théâtre de Chaillot, vous pouvez aller voir quelque chose qui moi, m'a beaucoup émue. Une représentation d'une femme par 3 actrices et par un homme, et par de la musique, beaucoup de musique, il y a un piano sur scène. Et le metteur en scène a fait un gros travail avec une mathématicienne pour essayer de rendre ce qu'étaient les mathématiques, mais aussi ce que sont les émotions d'une femme qui cherche, qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche, qu'est-ce qu'on cherche en soi. En l'occurrence, cette femme s'est arrachée à son pays pour pouvoir aller travailler, s'est arrachée à un mari qu'elle avait choisi juste pour des raisons politiques, pour pouvoir rentrer dans la science. Ça ne l'empêche pas d'avoir énormément d'émotions, ça ne l'empêche pas de devenir une romancière reconnue. Et le point qu'on essaye de démontrer, en tout cas, qui s'impose lorsque vous voyez cette pièce, mais je ne voudrais pas tout vous dire, parce que je voudrais vraiment que vous alliez la voir, c'est que, en tout cas, ce que Sofia Kovalevskaya défendait, c'est qu'inventer, jouer et aimer, ce n'est que la même chose, et que quand on invente quelque chose, on joue, et quand on joue, on aime, et quand on aime, on invente mieux. Et donc, voilà, en 1h30, j'espère que vous irez vraiment la voir au théâtre de Chaillot, c'est tous les soirs à 20h30. En 1h30, vous avez 3 femmes, 3 étrangères en l'occurrence, qui parlent parfois dans leur langue, le russe, parfois dans une langue qui n'est pas la leur, qui est le français, ce qui est pratique pour vous, et parfois en allemand également, puisque Sofia Kovalevskaya a étudié en Allemagne. Et à partir de bribes de beaucoup de textes qui se sont rassemblés sur scène, donc un texte peu écrit et beaucoup joué, vous avez un portrait assez fort d'une femme exceptionnelle.
Merci beaucoup, on va y aller.
Recherche en cours touche à sa fin. On va rappeler quelques références. David ou Emmanuel Taïeb ?
Oui, Michel Foucault, Surveiller et punir, qui est sorti en 1975, qui est édité chez Gallimard. On a un livre tout récent d'un étudiant, d'un docteur québécois qui s'appelle Pascal Bastien, qui a fait un livre qui s'appelle L'exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. C'est sorti chez Champvallon cette année en 2006. On a un livre d'il y a 2 ans d'une jeune étudiante qui s'appelle Julie Le Kouang-Sang, La loi et le bourreau, chez L'Harmattan.
Merci beaucoup Emmanuel Taïeb d'être venu nous présenter votre sujet. Merci David Dumoulin, merci Jean-Marc Galland. Je voudrais citer également un livre qui est paru chez Phébus qui s'appelle Une nihiliste Sofia Kovalevskaya. Et puis pour terminer à la technique, Romain Martinez qui nous aura bien aidé. Et à dans 15 jours pour parler de chimie.